Ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes jeudi 5 novembre 2020. Vous suivez la radio Inzamba Agathe Kakaoui. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. C'est presque un assassinat par jour. Le rapport du mois d'octobre d'Akat Burundi fait frémir. Vous suivrez les détails dans ce journal. 15 000 francs burundais, c'est la somme que chaque habitant du village de paix de Mutao en province Gitega devra verser pour la sécurité. Un ordre qui serait de l'administrateur Melkiade Nihorimbere et qui suscite le mécontentement des habitants. Bientôt, les journalistes sans carte de presse du CNC ne sont plus autorisés à exercer au Burundi, un avertissement du président du conseil Nestor Bangomukonzi. Aux manettes, Théodomir Manilambona, à toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Chaque habitant du village de paix de Mutao en province Gitega doit payer une contribution pour la sécurité du site. C'est une décision de l'administrateur Melkiade Nihorimbere qui exige jusqu'à 15 000 francs burundais. Les habitants qualifient cette contribution de vol organisé par l'administrateur pour pouvoir payer les membres de la milice Imbonerakure. Ils demandent aux élus de cette commune de plaider en leur faveur. Suivez un témoin du village de paix de Mutao.
En date du 3 novembre 2020, à 14h30, l'administrateur communal de Mutao, Melkiade Nihorimbere, est arrivé dans le village de paix de Mutao. Il voulait tenir une réunion d'intention des habitants de son village. Il a commencé à montrer que les élections sont terminées et en aussi en élucidant les institutions nommées les institutions élues. Il a continué à parler à propos de la sécurité. Il a dit que la sécurité revient à tout un chacun, que tout le monde doit le soutenir. Cela était bien parce que tout le monde a besoin de la paix, a besoin de la sécurité. Ce qui a énervé les habitants de ce village, c'est que l'EAO a demandé de payer une somme d'entre 15 000 et une somme inférieure à cette somme selon les moyens. Ce qui est vu par la population comme un vol organisé par l'administration. Le plus énervant aussi, c'est qu'on n'a pas donné la parole aux gens qui ne sont pas du parti au pouvoir, parce qu'ils pouvaient dire ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Et nous voyons que c'était un vol organisé par le régime de Saint-Décédé, normalement au niveau de la commune de Mutao, qu'il s'agit aussi d'un vol soutenu par un groupe obscur formé de l'administrateur de la commune de Mutao et le secrétaire communal du parti qui, ce dernier, habite dans ce village. Nous demandons aux élus du peuple s'ils ne soutiennent pas ces massages, comme on peut le qualifier, de suivre ce qu'ils font à tout moment, parce que la population n'a pas besoin d'être volée.
Contacté par notre rédaction, l'administrateur de Mutao nie en bloc ces accusations. Melkiade Nihorimbere indique qu'aucune raison ne peut justifier cette contribution de la population du moment que la sécurité est bonne dans sa commune et que les forces de sécurité sont suffisantes. L'association chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT, se dit aujourd'hui encore plus préoccupée par la dégradation de la situation des droits de l'homme au Burundi. Pour le seul mois d'octobre 2020, elle a dénombré 28 cas d'assassinats, 29 cas d'arrestations arbitraires et bien d'autres violations des droits humains. L'organisation déplore que les présumés auteurs ne sont pas inquiétés. Le point avec Jean-Georges Kibogora.
Tant à propos de violation des droits de l'homme, ACAT Burundi note que le phénomène d'assassinat et d'enlèvement sont devenus de plus en plus récurrents au Burundi et se sont surtout accrus pendant cette période post-électorale de 2020. La période du mois d'octobre a été beaucoup caractérisée par le phénomène des corps sans vie, découverts dans différents endroits comme les rivières, les buissons, puis enterrés activement par les responsables administratifs, chose qui met en exergue une complicité présumée des hautes autorités du Burundi, selon la carte Burundi. À côté des 28 cas d'assassinat, Akatbondi a également dénombré une trentaine de cas d'arrestation abusive ici et là à travers le Burundi. Elle constate que cette chasse à l'homme a été dirigée surtout contre les opposants ou supposés au gouvernement et conduite principalement par les jeunes Imbonerakure, soutenus par les administratifs à la base. Ce n'est pas tout, Akatbondi a également documenté des cas d'atteinte à l'intégrité physique où les jeunes Imbonerakure continuent à faire la pluie et le beau temps à malmener la population, surtout celle appartenant au parti de l'opposition. Ils se livrent aux actes de torture sans être inquiétés. Akatbondi se dit très préoccupé par une situation des droits de l'homme qu'elle qualifie d'alarmante. Elle constate malheureusement que la justice burundaise ainsi que les institutions nationales des droits de l'homme comme la CNIDH et l'Ombudsman semblent être prises en otage par l'exécutif et que l'aboutissement des enquêtes menées par le ministère public reste hypothétique, surtout quand les victimes sont des opposants politiques ou des défenseurs des droits de l'homme. Akatbondi demande au gouvernement burundais de garantir un procès équitable, de mettre fin aux multiples violations des droits de l'homme conformément aux engagements nationaux et internationaux en matière de la protection des droits de l'homme. Elle interpelle la communauté internationale à suivre de près l'évolution de dégradation des droits de l'homme qui risque de s'empirer.
Merci Jean-Georges Kibogora. La détention de la carte de presse du Conseil national de la communication est obligatoire pour tout journaliste burundais. Ce sont les propos de Nestor Bangomokonzi, président du CNC. Il précise que le journaliste qui n'a pas cette carte se verra bientôt refuser le droit d'exercer. C'était dans une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Suivez-le.
Regrettons qu'il y ait encore des journalistes qui en principe remplissent les conditions pour avoir cette carte, mais qui n'ont pas voulu compléter leur dossier pour avoir ce document. Et nous profitons de cette occasion pour dire solennellement que seuls les détenteurs de cette carte de presse ou ceux qui ont une attestation de perte qui tient lieu de carte de presse sont autorisés à exercer le métier de journaliste, parce qu'il est question de faire respecter la loi. Et on aurait dû déjà exiger la détention de cette carte à partir de septembre 2019. On a dû sursoir à cette exigence parce qu'on avait constaté qu'il y a eu des problèmes pour pouvoir octroyer de ces cartes à tout le monde, mais après avoir attendu une année, et nous estimons que cette période est assez suffisante pour pouvoir permettre à tout le monde de s'en procurer. Ceux qui n'en ont pas encore eu sont priés de se dépêcher pour pouvoir compléter leur dossier et pour qu'ils soient dotés de cette carte. Et nous saisissons donc cette occasion pour lancer et vivre à appel et aux journalistes et aux responsables des médias de se conformer à la loi en se dotant rapidement de cette carte de presse.
Voilà, c'était donc l'avertissement de Nestor Bangomokonzi, président du CNC. Certains journalistes qui exercent au Burundi ont indiqué à la radio Inzamba Agathe Kakawe qu'ils ne voient pas l'importance de cette carte. Ils précisent que même les détenteurs de cette carte de presse du CNC sont malmenés dans certains coins du pays, raison pour laquelle ils ne se bousculent pas pour s'en procurer. Et puis, un mot sur nos consoeurs et confrères du journal Iwachu qui totalise aujourd'hui 381 jours d'incarcération. Souvenez-vous, Christine Kamikazi, Agnès Ndiloubousa, Terence Mozenzi et Gide Haleimana ont été arrêtés le 22 octobre l'année dernière à Boubanza. Ils sont rendus en commune Moussigati dans cette province pour un reportage sur des affrontements entre les forces de l'ordre et les rebelles. Ils sont accusés de tentatives impossibles, de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million de francs burundais chacun. Une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Chers enseignants, soyez des modèles pour vos élèves en ce qui est de la prévention de la COVID-19. Vérifiez et aidez les élèves à appliquer les mesures barrières de prévention. Alertez chaque signe suspecté d'atteinte de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Inzamba.
Agathe Kaka. Dans la province Makamba, au sud du Burundi, 15 personnes, dont 5 femmes, ont été interpellées par la police. Ils sont accusés de fabriquer et commercialiser la boisson prohibée, dite Kanyanga ou Rutuku. Cette fabrique de cette boisson ont été détruites et près de 5000 litres de cette même boisson ont été saisis par la police en moins de 2 semaines. Bonfils Nyongere s'est penché sur le dossier.
Des sources policières font un bilan de 15 personnes appréhendées, dont 5 femmes. Ils sont accusés de fabriquer et de consommer la boisson prohibée, dit Kanyanga, et ont été arrêtés par la police dans une période ne dépassant pas 2 semaines. En plus de ces personnes interpellées par la police, cette usine de fabrication de boissons prohibées, dit Kanyanga, ont été détruites, dont 5 en commune Nyanzalak. Ces usines détruites et fabriquées des boissons prohibées dans différentes localités sous les complices des autorités administratives et locales de certains éléments de police et des miliciens Imbonerakure dans ces mêmes localités. Révélation des sources de la radio Nzambagate Kakawe dans cette province du sud du Burundi. Leurs propriétaires sont membres influents du CNDD-FDD qui partagent des bénéfices avec les agents ci-haut cités, continuent les mêmes sources. Près de 5000 litres de cette boisson prohibée ont été déversés lors de ces fouilles et perquisitions de la police dans les communes Nyanzalak, Makamba et Kayogoro. Selon les habitants proches de ces lieux de fabrication, ces usines appartenaient aux membres du CNDD-FDD. Les personnes arrêtées sont en détention dans différents cachots des commissariats communaux. D'autres sont activement recherchées par la police.
Bonfils Nyongere. Pour terminer, le 5 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Un harcèlement dont certains enseignants et directeurs d'école sont responsables, surtout en ce qui est des abus sexuels envers leurs jeunes élèves. Selon Eulali Nivizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants au Burundi, le gouvernement doit prendre des mesures sévères à l'endroit de ces éducateurs qui ne respectent pas les droits de ces enfants. Le point avec Belancil Ninazwe.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Le harcèlement scolaire est une réalité au Burundi, selon donc Eladi Nivizi, qui y a exercé le métier d'enseigner. Elle relève quelques défis que rencontrent ses enfants sur le banc de l'école.
Je voudrais déplorer que dans le milieu scolaire burundais, ce phénomène existe. Il y a des enseignants, il y a des directeurs, il y a des administratifs qui se permettent de violenter les élèves, soit par les paroles, soit par des actes d'utilisation de la baguette. Ils battent les élèves jusqu'à les blesser. C'est une forme de torture. Donc des actes de violence existent bel et bien dans le milieu scolaire burundais, ce qui est déplorable. Et normalement, pour éduquer un enfant, il ne faut pas utiliser la violence parce que vous l'éduquez dans la violence, il grandit dans la violence. C'est d'ailleurs la première preuve d'abandon scolaire. Il y a des enfants qui, une fois battus à l'école, immédiatement, ils rentrent à la maison. Ce n'est pas normal que le discours officiel dise que l'enfant doit être traité humainement et que l'école doit être l'ami des enfants et que, par contre, des enseignants, des directeurs battent les élèves jusqu'à les blesser, jusqu'à causer même des entorses, jusqu'à traumatiser les enfants.
Eladi Nivizi explique ce qu'il faut faire pour éviter ces violences.
Pour combattre ce phénomène, il faut que les directions scolaires, à commencer par le comité de gestion de l'école, organisent un dialogue en milieu scolaire pour prévenir ces comportements. Mais aussi qu'il y ait des enquêtes afin que tous ces cas de violence en milieu scolaire soient mis en évidence, soient identifiés et que le comité de gestion de l'école conseille à ses enseignants, ses directeurs qui torturent les élèves en classe. Éduquer l'enfant, on peut l'éduquer, on peut le punir de manière sévère sans toutefois le torturer. En cette période de crise, en cette période de comportement d'intolérance. Les enfants peuvent même considérer que l'enfant, l'enseignant ou l'éducateur qui le traite avec violence est en train de faire des règlements de compte du type politico-ethnique. Ainsi, vous allez comprendre que l'enfant ne saura jamais qu'il est puni pour une cause juste tant que la punition dépasse l'âge de l'enfant, tant que ça va vers la provocation de la douleur chez l'enfant.
L'État doit punir sévèrement les enseignants qui infligent ces actes de violence aux élèves et instaurer une loi qui pénalise les auteurs de ces abus.
Belancil Ninazwe. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Théodomir Manirambona pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Portez-vous bien.